Jouons collectif. À l'occasion du mois de l'économie sociale et solidaire, Grenouille et le Journal de la Friche s'associent pour vous proposer trois émissions spéciales autour des alternatives aux modèles économiques dominants et sur la façon dont les artistes et créateurs participent à réinventer la notion de production en commun. Pour mieux situer ce dont il est question quand on parle d'économie solidaire, voici, pour commencer, un entretien téléphonique avec Patrick Vivray, auteur d'un rapport qui fait référence en ce domaine. Patrick Vivray, bonjour. Merci de nous accorder quelques instants pour cette réflexion autour de l'économie solidaire, pour laquelle nous aimerions définir ou peut-être redéfinir quelques fondamentaux. Je rappelle que vous êtes magistrat à la Cour des comptes, écrivain, essayiste, et que votre domaine de recherche se situe essentiellement dans le registre de la philosophie politique. Vous êtes notamment l'auteur d'un rapport publié en 2002, je crois à la demande de Guy Ascouette, qui était secrétaire d'État à l'économie solidaire, un rapport intitulé « Reconsidérer la richesse », dans lequel vous démontrez que nos modes de calcul économique, et notamment le PIB, ne sont plus du tout en accord avec l'évolution de la société, et qu'il faudrait indiquer dans un nouvel indicateur économique les coûts sociaux, les coûts sanitaires, environnementaux, bref, y intégrer l'ensemble des activités essentielles au développement humain. Mais une question, comment quantifier, comment évaluer concrètement ces activités en termes de recettes, de dépenses et de comptabilité publique ?
Alors d'abord, il faut dire d'entrée de jeu que sur toutes les questions qui concernent l'évaluation de la richesse, il y a deux droits fondamentaux sur lesquels il faut avancer, qui est d'un côté le droit de compter autrement, c'est-à-dire quand il y a effectivement des éléments quantifiables et pas simplement quantifiables en monnaie, il faut introduire de nouveaux systèmes de chiffrage et de quantification, mais il faut dire simultanément qu'à côté de ce droit à compter autrement, il est essentiel de préserver aussi le droit de ne pas tout compter, parce que vous avez des éléments absolument essentiels qui relèvent de la qualité et qui ne sont pas quantifiables. Et ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas quantifiables ou difficilement quantifiables qu'ils ne vont pas avoir de la valeur. Il suffit que chacun se pose la question « qu'est-ce qui compte vraiment dans ma vie ?» et il va découvrir que, par exemple, l'amour de ses proches, le sens de sa vie vont être des éléments absolument fondamentaux et même vitaux, et pour autant, il va pas pouvoir les quantifier. Et c'est pas parce qu'il ne peut pas les quantifier que ça n'aura pas de valeur. Donc c'est très important dans un processus démocratique de redonner aussi une place à la qualité indépendante des processus de quantification, vous voyez. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des progrès considérables à faire du côté du volet droit à compter autrement. Par exemple, vous avez un certain nombre de ressources ou de coûts, effectivement, dans le domaine social, sanitaire, écologique, bien sûr, qui peuvent être intégrés, et c'est l'objet d'un certain nombre de travaux internationaux qui aboutissent à des propositions de nouveaux indicateurs ou de réformes importantes de nos systèmes de comptabilité. Est-ce que vous voulez que je vous en donne quelques exemples ?
Volontiers.
Par exemple, vous avez des indicateurs qui commencent à être connus comme l'empreinte écologique et qui permettent de repérer comment un mode de production et de consommation donné utilise de surface de la planète, que ce soit au niveau terre ou que ce soit au niveau océan, et qui fait apparaître par exemple que si l'ensemble des humains avaient le même mode de consommation que celui des Américains, il nous faudrait aujourd'hui 5 planètes pour développer ce mode de production et de consommation. Donc voilà un indicateur simple qui a l'avantage de montrer que nous sommes dans un mode de croissance qui est devenu insoutenable. vous avez un indicateur qu'on appelle l'indicateur de santé sociale et qui permet de reprendre sur des questions de base telles que la mortalité, les accidents de la route, la violence, les suicides, l'état de santé sociale d'une société. Et cet indice de santé sociale, il a été utilisé dans sa version française par le réseau d'alternatives sur les inégalités et par Alternatives économiques pour construire un indice qu'on appelle le BIP 40, barème des inégalités et de la pauvreté. Et ça permet justement d'aller travailler sur les enjeux sociaux. Et puis vous avez tout ce qui se fait sur le terrain plus écologique, notamment ce qu'on appelle le PIB vert, le produit intérieur brut vert, qui va soustraire dans la comptabilité nationale classique des éléments de destruction écologique et environnementaux et qui va au contraire rajouter des éléments liés au patrimoine naturel de la nation. Donc vous voyez, il y a beaucoup de recherches et d'avancées qui se sont produites au cours des dernières années. Moi je sais que depuis que la mission Reconsidérer la richesse, il y a des avancées sensibles qui se font sur le plan international et on est maintenant rentré dans une période où, en particulier en France, il faut s'approprier ces travaux et puis sortir de ce que beaucoup ont appelé la dictature du PIB qui empêche de voir comment des questions écologiques et sociales en particulier peuvent être véritablement prises en compte tant du point de vue des coûts que des ressources.
Ne pas tout compter, compter autrement grâce aux indicateurs que vous venez d'évoquer. Nous sommes particulièrement sensibles à la manière dont on peut intégrer dans les flux économiques les productions culturelles. Alors, comment évaluer cette richesse symbolique produite par un acte d'artiste ? Est-ce qu'il faut la compter ? Est-ce qu'il faut la compter autrement ?
Alors là, on est typiquement sur un terrain où le droit à ne pas tout compter et le droit à compter autrement doivent être articulés. Dans le droit à ne pas tout compter, il y a évidemment le fait que une bonne partie de ce qui s'exprime sur le plan artistique, justement, est de l'ordre de la qualité et non pas de l'ordre de la quantité. Quand on est sur ce terrain-là, moi j'ai proposé une méthode assez simple pour repérer la valeur d'éléments qui ne sont pas forcément quantifiables, c'est d'en simuler la perte. Vous voyez, si on prend un exemple écologique, l'air est abondant et gratuit, enfin on peut dire de moins en moins, mais globalement il reste encore relativement abondant et gratuit, et du même coup il n'a pas de valeur économique. Mais si vous simulez la perte de l'air, vous comprenez tout de suite qu'il est indispensable à la vie. Prenez des valeurs fondamentales comme la liberté, l'égalité, la fraternité, vous n'allez pas la quantifier, ou alors vous n'allez en donner que de petits indices de quantification, mais si vous simulez la disparition de ces valeurs, et on en a eu des exemples comme par exemple avec le régime de Pétain qui avait remplacé ça par le triptyque travail, famille, patrie, vous comprenez immédiatement que vous passez dans un régime autoritaire. Ben, du point de vue artistique, c'est la même chose. Vous imaginez la disparition de toutes les productions culturelles, artistiques, musicales, théâtrales, de danse, enfin vous imaginez cet ensemble et vous demandez à une communauté, est-ce que pour vous cette perte-là serait intolérable, grave, enfin vous pouvez avoir une gradation de cette nature ou au contraire acceptable, et ça va vous donner des éléments d'appréciation sur l'importance de richesses non quantifiables. Et puis à côté de cette partie qui qui est dans le droit de ne pas tout compter, vous avez malgré tout des éléments que vous pourriez prendre en compte de façon beaucoup plus nette, c'est-à-dire justement en considérant que pour une collectivité, les éléments liés à son patrimoine culturel et artistique ne sont pas du côté des charges, mais du côté des investissements. Donc on pourrait se mettre à les compter positivement, là où ils sont souvent présents négativement dans les comptes.
On connaît le prix de l'eau le jour où l'on a soif, c'est une vieille sagesse du désert et apparemment elle est tout à fait actuelle aujourd'hui à propos de la situation de la culture. Un autre domaine que j'aimerais qu'on évoque ensemble et qu'on connaît bien aussi à Marseille, c'est celui de l'économie informelle. Comment est-ce qu'elle peut s'insérer dans ces modes de comptabilité, cette économie informelle ?
D'abord, je reviens 30 secondes sur votre bel exemple à propos de l'eau. On connaît le prix de l'eau quand on a soif. Ça, c'est justement ce que les nouvelles approches de la richesse, qui rejoignent sur ce terrain le bon sens, disent. Mais quand vous prenez aujourd'hui les formes de comptabilité économique, c'est rigoureusement l'inverse. Pour qu'il y ait un prix de l'eau, il faut que l'eau soit en voie de pollution et pour qu'il y ait une industrie d'assainissement ou une industrie de remplacement telle que l'eau minérale. Donc on marche sur la tête parce que nos représentations économiques dominantes n'intègrent des valeurs, et notamment des valeurs écologiques, que quand elles sont en voie de destruction ou de pollution. Alors pour revenir sur votre question sur l'économie informelle, l'un des grands enjeux justement c'est économie solidaire ou économie souterraine. Parce que dans l'économie informelle, vous avez un mélange des deux. Vous avez des éléments de solidarité très importants et qui correspondent au fait que dans des situations de rareté artificielle sur le plan monétaire qu'on leur impose, beaucoup de gens réussissent à survivre, à échanger, à créer de la richesse par des voies informelles par rapport au modèle économique déterminant. C'est vrai dans nos sociétés, mais à l'échelle planétaire, c'est massif. Il y a les 3 milliards d'êtres humains qui vivent avec moins de 1 ou 2 dollars par jour, ils devraient être morts si on fonctionnait conformément aux standards économiques dominants. Si malgré tout ils continuent à vivre, même dans des conditions très difficiles, c'est bien parce qu'ils s'organisent autrement à travers cette économie informelle. Mais tant que cette économie reste purement informelle, elle est aussi le siège à côté de cette face solidaire. Vous avez la face noire qui est la face mafieuse, parce qu'évidemment dans cette informalité, vous avez tous les négriers, tous les pêcheurs en eau trouble qui vont utiliser cette informalité. Et c'est donc d'autant plus important de faire advenir à l'expression démocratique et à la visibilité sociale l'économie solidaire en lui donnant les moyens de faire exister d'autres formes de richesse et d'autres formes d'échange que la monnaie classique pour justement permettre à cette économie solidaire de ne pas être confondue avec l'économie souterraine dans sa version mafieuse.
L'État est un agent économique majeur. Quel rôle, selon vous, doit-il jouer ? Quel type d'intervention peut-il avoir entre l'économie marchande, d'un côté, et puis cette économie solidaire ? Comment s'insère-t-il entre ces deux mondes ?
L'État, c'est d'ailleurs ce que nous avions proposé à l'époque quand Guyascouet était secrétaire d'État à l'économie solidaire, il doit être en charge de la pluralité des formes économiques, ce que nous avions appelé l'économie plurielle. C'est-à-dire, dans les formes économiques, on connaît évidemment l'économie marchande, mais il y a aussi justement de l'économie sociale et solidaire, toutes les mutuelles, toutes les coopératives, toutes les formes, soit anciennes liées à l'histoire du mouvement ouvrier, soit nouvelles liées à l'économie solidaire. Et puis, vous avez une troisième grande modalité économique, qui est ce qu'on appelle l'économie publique, qui joue un rôle tout à fait fondamental, et y compris dans des pays qualifiés de libéraux. Une très grande partie de l'économie en anglaise, américaine et des pays du Nord est de l'économie publique. Et le concept d'économie plurielle vise à articuler ces trois formes économiques dans des conditions de règles du jeu telles qu'elles puissent effectivement non seulement exister simultanément, mais avoir des formes d'articulation. Et d'autre part, l'État, il a, outre cette fonction de garant, cette fonction de régulation, la fonction tout à fait capitale de la prise en charge du moyen et du long terme. Par exemple, aujourd'hui, avec un problème tel que le dérèglement climatique, on voit bien que c'est l'État qui est comptable des conditions à réunir pour éviter qu'en 2100, nous ayons plus 6 degrés ou davantage, et du calendrier d'obligation qui, pour empêcher cette situation catastrophique, doit modifier les modes de production, de consommation avant 2050. Et cette fonction du long terme, elle doit s'articuler avec la fonction d'arbitrage et de régulation. Et par exemple, dans cette perspective, on voit bien que l'économie sociale et solidaire, qui est beaucoup plus en phase avec les exigences du long terme du point de vue du développement durable et des réorientations des modes de production et de consommation, devrait être non seulement préservée, mais largement favorisée par un État démocratique.
Difficile d'aborder la question économique sans aborder parallèlement la question monétaire, et puis justement à propos du rôle de l'État. André-Jacques Holbecq, dont vous avez préfacé, je crois, l'ouvrage sur l'éco-sociétalisme, oui, propose, lui, un modèle économique global qui intègre aussi bien les flux économiques que monétaires. Est-ce que vous pensez, comme lui, que l'avenir de l'économie solidaire passe par la réappropriation de la création monétaire par la collectivité, autrement dit par l'État ?
C'est deux choses différentes. Alors d'abord je réponds oui à la première partie de votre question. Il y a impérativement besoin d'une réappropriation, pas seulement de la création monétaire, mais de l'ensemble de l'enjeu que représente la monnaie par la démocratie. Nous avons vécu au cours des années 70 et plus encore 80 l'équivalent d'un véritable coup d'État souterrain qui a sorti les enjeux monétaires des enjeux démocratiques. Et ça, c'est gravissime, et c'est d'autant plus gravissime qu'aujourd'hui, on le voit bien avec la crise qui mine l'intérieur de l'économie financière, on est sur une forme de bateau ivre. Je résiste pas au plaisir de vous citer un dialogue d'Alan Greenspan, l'ancien président de la Banque fédérale américaine, avec le secrétaire d'État au Trésor, Bob Rubin. Quand Alan Greenspan avait parlé de l'exubérance irrationnelle des marchés financiers, il s'était fait engueuler par le secrétaire d'État au Trésor américain qui lui avait dit ceci. Premièrement, il n'existe aucun moyen de savoir quand un marché est surévalué ou sous-évalué. Deuxièmement, on ne peut pas lutter contre les forces du marché et il est donc inutile d'en parler. Troisièmement, quoi que nous disions, cela risque de se retourner contre nous et de nuire à notre crédibilité. Les gens se rendront compte que nous n'en savons pas plus qu'eux. Et Alan Greenspan ajoute piteux, j'ai dû admettre que tout cela était vrai. C'est-à-dire, l'homme le plus puissant du monde pendant 14 ans nous dit maintenant qu'il était sans véritable moyen face à un bateau ivre, et c'est ça ce qui est devenu aujourd'hui l'économie financière. Vous voyez. Donc c'est dans ce contexte-là que la réappropriation démocratique de la monnaie est tout à fait fondamentale. Alors simplement, quand vous dites la collectivité, donc l'État, c'est important de préciser cette nuance, c'est que nous avons besoin d'une appropriation sociale et démocratique de la monnaie qui n'est pas forcément de nature étatique. Parce qu'il faut bien voir que l'une des raisons majeures pour lesquelles la révolution conservatrice anglo-saxonne a pu réussir à sortir sortir le champ monétaire du champ étatique, justement, c'est lié aux abus permanents au cours de l'histoire par les États de l'usage de la monnaie, ce qu'on appelle sous les formes classiques l'expression de faire fonctionner la planche à billets, en était un exemple. Donc ça peut pas être un mouvement pendulaire après les abus de la dérégulation et des forces du marché, de revenir en quelque sorte à ce qu'étaient les abus de l'État. Il faut, de la même façon qu'on ne peut pas traiter la grande crise du capitalisme financier qui s'annonce sans oublier les raisons pour lesquelles le modèle communiste s'est effondré, en matière monétaire, on ne peut pas simplement revenir à de l'intervention étatique stricto sensu. Il faut penser, et de ce point de vue-là d'ailleurs le terme d'éco-sociétalisme est un terme stimulant, le problème monétaire dans sa dimension sociale et démocratique large et qui n'est pas simplement celle de l'État. Par exemple, la façon dont les collectivités territoriales peuvent intervenir dans le processus, la façon dont on pourrait avoir des banques centrales réellement indépendantes, alors qu'aujourd'hui on a des banques centrales qui sont totalement dépendantes des marchés financiers. Mais une banque centrale réellement indépendante, c'est une banque dont les gouverneurs et les orientations pourraient être liées, par exemple, à un conseil représentatif des grandes forces sociales, culturelles, écologiques et démocratiques d'une société. Donc vous voyez, il y a un tiers-espace possible pour de l'invention démocratique concernant les formes monétaires qui se réduit pas au couple binaire de l'État et du marché.
Pour conclure cet entretien, Patrick Vivray, une dernière question. Comment aujourd'hui sensibiliser les citoyens de manière à ce qu'ils soient beaucoup plus actifs dans ce fonctionnement de l'économie solidaire ?
D'abord, ils seront de plus en plus sensibilisés parce que les éléments liés à la crise financière qui s'annonce vont obliger à des réactions de nature coopérative et solidaire si on veut éviter des formes de récession et d'effondrement de pans entiers de nos économies. Et pour prendre un exemple qui correspond à la dernière partie de notre échange sur le plan monétaire, il y a une initiative dans le champ de l'économie sociale et solidaire qui s'appelle le SOL. Le SOL, c'est une monnaie qui répond à la fois à des logiques de solidarité, de renforcement du développement local et durable, de renforcement de l'économie sociale et solidaire, et qui permet, outre de la création d'échanges et d'activités dans une perspective solidaire et de développement durable, de réouvrir ce débat sur la monnaie et d'être un espace de réappropriation démocratique de la monnaie. Ça peut être un bon vecteur, y compris un bon vecteur d'éducation populaire sur toutes ces questions-là.
Merci beaucoup, Patrick Vivray, de nous avoir aidé à remettre à plat ces quelques notions autour de l'économie solidaire.
Merci à vous.
Rendez-vous mardi prochain à 10h pour la suite de cette thématique consacrée à l'économie sociale et solidaire. On y verra un cas concret et il nous touche de près à la friche Belle de Mai puisqu'il s'agira du changement de forme juridique de la friche qui devient une SCIC, Société Coopérative d'Intérêt Collectif. Vous retrouverez l'essentiel de ces débats et plus encore dans le journal de la Friche, sous la plume de Frédéric Kahn, qui a avec nous préparé ces émissions. Le rapport de Patrick Vivray, intitulé « Reconsidérer la richesse », est consultable sur le site www.sociétal.org.